J'ai une question écrite, mais que je viens de trouver. Je la lis. Peut-on expliquer les versets suivants à partir du texte en grec? 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Une autre version, si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans l'assemblée, cela ne se fait pas. Une demande d'explication aussi sur 1 Timothée 2, versets 11 à 12. Peut-être que j'ai essayé de la donner, peut-être d'autres pourront dire un mot. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas d'enseigner, ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. On constate malheureusement que beaucoup de versions ont utilisé ici le mot silence, sans prendre garde au fait que le mot est ambigu en français. Il y en a qui ont mis des notes. Version ultérieure, on tâchera de mettre une note. Pour 1 Corinthiens 14, verset 35, je dis ce que je sais simplement, comme disait Daniel dans sa prière, nous connaissons en partie et nous comprenons les choses de manière différente les uns des autres. Et il est malséant à une femme de parler dans l'église. Savons bien que nous appuyons sur ce verset pour que dans le déroulement des réunions, les sœurs ne prennent pas la parole pour enseigner ni même pour prier. Nous savons bien que dans bien des groupes chrétiens, les choses se font autrement. Nous en restons, pour ce qui me concerne, nous en restons à ce que dit l'Écriture. Il est inconvenant pour une femme de parler dans l'assemblée. Parler, c'est ici le mot général pour parler qui est utilisé dans 1 Corinthiens 14 dans tout le texte. Mais peut-être que d'autres frères auront quelque chose à dire. Je finis les questions. Excusez-moi, une femme peut-elle, sans être en désaccord avec l'enseignement de la parole de Dieu, proposer le chant d'un cantique au culte ou dans une autre réunion? A-t-elle la liberté de prier à autre voix, par exemple à la réunion de prière? Ce sont des questions qui agitent énormément, qui ont toujours agité les rassemblements. Nous savons bien que des rassemblements qui nous sont très proches gèrent les choses autrement que nous ne le faisons.
Il me semble que le grand principe qui est sous-entendu dans tout ce qui est demandé à la femme, c'est ce principe qu'on a en Timothée 2, que la femme ne doit pas user d'autorité sur l'homme. Et je crois, il me semble en tout cas, que c'est sur cette base-là que Paul, oui, Corinthiens 11 en particulier, nous donne ses enseignements. Parce que le fait de parler en public, eh bien, sous-entend qu'elle use d'autorité sur l'homme. Je crois que c'est un grand principe de la parole qui est là devant nous et que nous devons garder, n'est-ce pas? Et on l'a souvent dit, n'est-ce pas? Dans le particulier, le service des sœurs, des chrétiennes, est tout à fait évident. Vous trouverez dans l'Écriture aussi. On a cité le cas de Prisca et d'Aquilas devant Apollos, voilà, ils étaient là dans le particulier et que ce soit la femme et l'homme ont bien pu enseigner utilement Apollos. Mais il me semble que c'est ce grand principe de public, d'autorité, alors à ce moment-là, qui n'est pas autorisé pour la femme.
La question qui se pose suite à ça, c'est quand est-ce qu'on est dans le public ou dans le privé, où on entend dire aussi quelquefois que la femme ne peut pas parler dans l'assemblée, quelquefois en réunion d'assemblée. Ben, certaines réunions sont considérées comme réunions d'assemblée, d'autres non. Si on parle dans le public, c'est encore une autre situation. Disons, il est difficile de savoir où est la limite.
Personnellement, sur tous ces problèmes, je suis totalement incapable de répondre. J'essaie d'étudier en détail depuis pas mal de temps et j'en suis arrivé à la conviction qui n'est pas la personnelle, qui est celle de tous les traducteurs, c'est qu'on a affaire, que ce soit 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2, aux textes les plus difficiles à traduire dans le Nouveau Testament, à part peut-être l'Apocalypse. Ceci étant, je crois que ce n'est pas le lieu ici de débattre, parce qu'on ne sera jamais fini. Je dis, une position, quelle qu'elle soit, se justifie d'une manière ou d'une autre par l'écriture. Plus ou moins. Tout dépend de la part que l'on met à ce qui relève de la culture, c'est-à-dire de contexte dans lequel Paul vivait, ou si on n'en met pas du tout, ou si on s'appuie sur 1 Corinthiens 14 et on laisse 1 Corinthiens 11, ou si on s'appuie sur 1 Corinthiens 11, on laisse 1 Corinthiens 14. Ce qui me frappe, moi, dans tout cela, c'est que le mouvement des frères a toute la palette des interprétations. Si vous prenez, je prends qu'un exemple concret, si vous prenez la question du voile, il y a ceux qui disent, eh bien, le voile, voilà, il faut qu'il soit en public, qu'il soit en privé, et la femme porte le voile en permanence, de préférence de couleur bleue pour qu'il rappelle le ciel. Et je crois que ces frères et sœurs sont très sincères. Et je suis convaincu qu'ils veulent absolument obéir à la parole. À l'inverse, de l'autre côté, chez les frères larges, bien, il y en a qui ne mettent pas de coiffure et qui disent, eh bien, voilà, la chevelure est donnée en guise de voile, nous, on le comprend comme ça. Peut-être qu'ils ont tort, c'est possible. Mais ils ont ce désir aussi de, je crois, de reconnaître la parole de Dieu. Ils en reconnaissent peut-être qu'une partie, c'est possible. Mais je crois qu'ils ont cette volonté-là. Et nous, on est un peu au milieu. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut, c'est surtout pour ça que je dis ça, qu'il faut nous garder de juger les autres. Qu'il faut comprendre que si nous n'avons pas la même démarche, si nous, nous avons compris la parole comme cela, et c'est très bien, il ne faut pas critiquer systématiquement ceux qui font autrement. Et ce qui me frappe aussi, c'est que dans les textes grecs, on a des mots qui sont uniques dans le Nouveau Testament et sur lesquels on s'appuie et qui veulent des fois dire des sens différents dont on ne mesure pas toujours bien le sens. Par exemple, « prendre autorité sur l'homme » est un verbe qui est unique dans 1 Timothée 2. Il y en a d'autres. Et donc, c'est quand même très difficile et qu'il nous faut être extrêmement prudents tout en désirant obéir à la parole. Je crois que la plupart de nos frères ont une démarche qui est tout à fait sage, mais en se disant que, bien ma foi, il faut rester humble et peut-être se dire qu'on ne résoudra pas toutes ces questions. Et surtout par-dessus, que ce n'est sûrement pas le moment de se diviser là-dessus. Tellement de sujets de division parmi les frères, autres, qu'il ne faut pas en rajouter encore d'autres qui amèneraient des troubles importants dans l'Église. C'est quelque chose d'essentiel, me semble-t-il.
Peut-être simplement souligner le mot qui me semble à son importance et la tête couverte. Et question du voile, c'est sûr que ça pose un problème et on n'a pas trop de solutions, me semble-t-il. La tête couverte, d'autant plus, là aussi, ça pose un problème entre guillemets, parce que il nous est dit prier sans cesse. Autrement dit, il faudrait que la femme ait constamment quelque chose sur la tête. C'est pareil, évident. Attends, voilà.
C'est tellement compliqué. Je prends simplement un verset, le verset 10 du chapitre 11. C'est pourquoi la femme, je lis le texte qui est la traduction la plus, je dirais, la plus littérale possible. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête autorité. C'est tout ce que nous dit la parole. Si vous ajoutez une marque de l'autorité, une marque de l'apostrophe, c'est entre crochets, à laquelle elle est soumise, vous interprétez déjà la parole. Et il y a des traducteurs qui n'ont pas voulu faire cette interprétation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête autorité. C'est très difficile. Moi, je n'ai pas de solution. Alors, peut-être que, effectivement, la solution est celle-là. Mais c'est quand même un texte qui est très, très difficile. Et il en va de même pour de nombreux textes dans l'Écriture. Ça explique, je dis simplement ceci, c'est pas pour jeter le trouble, mais pour faire comprendre qu'il y a des amis, des frères et sœurs en Christ qui ont une autre lecture. Et si on veut s'y intéresser, eh bien, il suffit de prendre les nouvelles traductions qui ont ceci de bien, souvent, c'est qu'elles ont des notes techniques qui permettent de dire, ben voilà, est-ce que ça veut dire ça, est-ce que ça veut dire ça, etc. Et c'est vrai, comme le disait Jean, il y a pas mal de mots qui sont ambigus en français. Il a parlé du silence. Pourquoi le traduire dans silence dans ce verset de 1 Timothée 2, alors que 4 ou 5 versets plus haut, il est traduit par tranquille? Il y a quelque chose qui est quand même un peu ambigu.
C'est une question d'être couverte quand on prie. Je rappellerai cette anecdote. Nous avions une tante qui, chaque fois qu'on rendrait grâce à table, se couvrait la tête. Voilà. Est-ce qu'elle avait pris peut-être la parole un peu au pied de la lettre? Je ne sais pas aussi.
Qu'est-ce qu'on peut dire à acte premier? Les disciples sont dans la chambre haute. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Disons apparemment, les femmes prient aussi.
On ne peut pas répondre oui, on ne peut pas répondre non. Je crois qu'il faut être honnête. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la mention que Luc fait là est tout à fait, je dirais, choquante pour l'époque. Pour les juifs, en tout cas. Pour les juifs, pas pour les chrétiens, mais pour les juifs qui tenaient la femme dans un silence total. Et c'est sans doute tout à fait volontaire. Il y aurait beaucoup d'autres signes où je pourrais voir ce que sont aussi les femmes dans le livre des Actes. C'est un sujet très intéressant. Et on verrait d'autres signes où chaque fois, il y a la volonté de souligner le rôle important de la femme. Mais on ne peut pas déduire de ce verset que les femmes priaient. On ne peut pas l'exclure non plus. Pas à partir de ce verset-là.
On peut peut-être simplement dire que la prière dans l'assemblée, celui qui prie dans l'assemblée, doit être un peu la voix de l'assemblée. Et que les frères et sœurs peuvent dire amen à cette prière.
Je ne veux pas trop insister sur ce fait, mais il y a des assemblées avec lesquelles nous sommes en communion où on demande avant la réunion de prière quels sont les sujets de prière que les sœurs ont, que les frères expriment bien entendu, mais c'est quelque chose qui est remarquable, je trouve ça tout à fait important et on n'y a pas pensé jusqu'à présent. Et je crois qu'il y a dans ce genre de situation quelque chose où tout le monde est gagnant. Et c'est peut-être par des attitudes comme ça, d'attention, d'écoute, qu'on redonnera peut-être à nos sœurs la place qu'elles méritent dans l'Assemblée.
Si on prend l'historique du mouvement du réveil de nos églises, disons, même avant que Darby visite nos campagnes, il se trouve que c'était les femmes qui ont adhéré apparemment en premier à ce mouvement. De ce que j'ai pu lire, quoi, je ne sais pas. Et ça me paraît étonnant, quoi. Je pense qu'elles devaient trouver une liberté qu'elles n'avaient pas ailleurs. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en déduire. Est-ce que cette liberté, elles l'ont toujours autant ?
Compte tenu du fait que, comme nous le savons chacun par expérience, la femme a une perception bien plus intelligente que l'homme d'une manière générale. Et je ne désire pas provoquer l'hilarité, c'est un fait. C'est un fait. Une femme sent des choses qu'un homme ne sent pas et voit des choses qu'un homme ne voit pas. Et même dans le domaine spirituel, c'est encore bien plus vrai aussi, certainement. Ça rejoint ce que Samuel disait à propos des femmes des évangiles.
Là, en Corinthiens 11... que les femmes seraient rasées, disons. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'était pas le signe des prostituées de l'époque, en se remettant dans le contexte, quoi. Est-ce que les prostituées n'étaient pas rasées à cette époque-là ?